With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous.
Oula.
Bienvenue dans le podcast La Sueur. Et ouais, c'est vrai, it's fear, it's fear.
Pris par surprise.
Pris par surprise. What a pleasant surprise. Donc aujourd'hui, les gars, on va parler, vous nous l'avez demandé, et on s'exécute de Gable Stevenson, qui est un véritable phénomène de lutte. Il a remporté en lutte aux Jeux Olympiques, en freestyle wrestling, la médaille d'or dans la catégorie des moins de 125 kilos. Champion aussi Panamérica, champion du monde junior en 2017, champion cadet en 2016 et 2015. Oui, nous avons affaire à un véritable phénomène qui a désormais 21 ans et qui a, auprès de Dana White, auprès de la WWE, montré fait part en tout cas de son intérêt. Donc on s'intéresse à tout ça avec Big Ol' Rusty qui est de retour, plus en forme que jamais. On lance le générique ?
Ouais.
Let's roll. Swear. Alright, alors, Gable, est-ce qu'il a impressionné Rust? Est-ce qu'il a le tampon de validation, Rusty? Est-ce qu'il peut fièrement l'afficher?
Après, en fait, c'est très loin de moi l'idée de valider un gars comme ça, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'y connais tellement rien en lutte que, en réalité, tout ce à quoi je peux me raccrocher, ce sont les faits. Et les faits, ça a l'air d'être quand même une sacrée dinguerie, quoi. Parce que le fait qu'il a 21 ans, qu'il ait déjà un titre de champion olympique, le fait que toute sa carrière, grosso modo, ça a été que ce soit en cadet, en junior et en senior, ça a été des victoires de tous les côtés. Ça a l'air d'être vraiment un prodige, en fait. En plus de ça, c'est 21 ans et c'est en poids lourd. C'est exceptionnel. Enfin, il a été champion deux fois NCAA en lutte aux États-Unis. En plus de ça, du coup, il a fait ses armes dans l'état du Minnesota, qui est un des trois états les plus monstrueux des States. En termes de qualité de lutteur et de production de lutteurs de haut niveau, je crois que le premier c'est Pennsylvanie, deux c'est Ohio et trois c'est Minnesota. Et donc là, champion olympique, grosso modo, il écrase tout sur son passage en fait. Et le fait que là, il ait déjà toutes ses accolades à 21 ans et qu'il puisse déjà commencer à se dire je suis champion olympique. Maintenant, ce que je peux faire, c'est soit attendre 2024 à Paris pour gagner une autre médaille d'or ou de championnats du monde, des machins, mais grosso modo, j'ai déjà atteint le Graal. Donc, à partir de là, maintenant, j'évalue mes options et soit je vais à la WWE pour faire du catch, soit je vais à l'UFC, soit je retourne à l'université, c'est ce qu'il disait, soit je continue à faire de la lutte aux States. Et le fait de se dire que à cet âge, il est capable d'avoir autant d'options, c'est complètement fou, en fait. C'est complètement fou au niveau de ça, c'est-à-dire de la star qu'il est peut-être en devenir, mais même du point de vue purement athlétique, ça veut effectivement dire que c'est quelqu'un qui doit avoir des facilités d'apprentissage, des qualités athlétiques qui sont juste, mais complètement délirantes, en fait. Et c'est pour ça que quand Ben Askren dit « Donnez-lui 18 mois et il est probablement capable de devenir l'équivalent d'un champion UFC, 18 mois d'entraînement MMA », ce que Cyril Gann peut faire, donc quelqu'un qui a une grosse capacité d'apprentissage au bout de 3 ans, donc savoir être champion intérimaire de l'UFC et vraiment dominer tout le monde, on se dit quelqu'un qui a ces facilités-là, mais qui vient du monde de la lutte, pourquoi est-ce qu'il ne serait pas capable de faire le même genre de performance, quoi. Donc c'est Gable Stevenson, il y a moyen effectivement que ce soit du très 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 lourd en devenir, en MMA s'il le choisit.
S'il le choisit, bien entendu, petit disclaimer par rapport à ce que Ross a dit. Donc, champion NCAA en 2021, troisième en 2019 pour Gable.
D'accord.
Bilan chez les pros de 35-6 et en NCAA de 67-2, ce qui est quand même particulièrement impressionnant. Comme cela dit, il y a Ben Askren qui était particulièrement élogieux, donc on le rappelle, 1m85 pour 120 kg Gable, donc par rapport à ce que l'UFC propose, c'est parfait. Parce qu'on aurait
Ouais.
vraiment quelqu'un qui serait, on va dire, prêt pour cette catégorie heavyweight. La seule question, c'est, n'est-il pas, pour l'instant, hein, encore un petit peu trop tendre pour l'UFC? Par ça, j'entends, il n'a pas d'expérience encore en MMA. Donc, est-ce que toi, tu le vois directement signé à l'UFC, ou est-ce que l'UFC pourrait faire un peu comme ce qui s'était passé avec Brock Lesnar, où tu le laisses faire son premier combat dans une organisation mineure qui est en partenariat avec toi, par exemple le LFA, ou tu sais, ou peut-être qu'il fasse ses trois combats là-bas, et ensuite, justement, qu'il aille directement à l'UFC. Parce que, mine de rien, moi, en tout cas, je me dis, sur le papier, en tout cas, l'UFC a peut-être vraiment sa prochaine méga star avec ce mec-là.
Ben, c'est possible, et d'autant plus qu'on est chez les poids lourds, et c'est la catégorie où, comme tu l'as dit, tu l'as cité, Brock Lesnar, Cyril Gane, où ça peut aller extrêmement vite, et c'est une des seules catégories à l'UFC où effectivement les gars peuvent rentrer avec trois victoires, tu vois. Enfin, genre, trois combats, trois victoires, ça peut marcher. C'est ce qui s'est passé avec Cyril. Je crois que Brock Lesnar, c'est même encore moins.
C'était un
Donc,
combat, Brock Lesnar.
c'était un combat, ouais, c'est ça. Donc, ça peut aller extrêmement, extrêmement vite. D'ailleurs, le parallèle est vraiment intéressant avec Brock Lesnar, parce que pareil, Brock Lesnar était un espèce de monstre de la lutte aussi aux States, et on sait la carrière qu'il a eue après. Donc je pense malgré tout, effectivement, parce que je crois que ça ne se serait jamais fait, que l'UFC prenne quelqu'un qui est à 0-0. Donc effectivement, je pense que l'UFC va juste vouloir qu'il fasse un, deux, trois combats dans une organisation mineure, juste être sûr, en fait. Être sûr qu'il va pas craquer, être sûr qu'il va pas se faire mettre KO par un mec, parce qu'en fait, en striking, ben, même s'il apprend vite, il a comme un peu genre Aaron Pico, tu vois, il est extrêmement bon, mais il peut se faire surprendre dans les transitions, malgré ses gros bagues en lutte, en boxe, machin. Donc, je pense que l'UFC va juste vouloir s'assurer, juste s'assurer, avec un, deux, trois combats, qu'il est frais, qu'il peut le faire, que c'est bon, toutes les promesses sont tenues et qu'il va se passer quelque chose. Et après le prendre immédiatement. Mais je pense pas effectivement qu'ils vont faire comme une AJ McKee avec le Bellator, c'est-à-dire genre du premier combat Bellator jusqu'à ce que qu'il devienne champion ou quoi.
Je ne suis pas d'accord, Rust. Moi, je pense que l'UFC va le signer directement s'ils ont l'occasion de le signer. Parce que là, mine de rien, le fait, tu vois, qu'il ait fait un petit hey, salut, salut à la WWE, un petit salut Dana White, je pense qu'à mon avis, tu vois, il fait un, monter les enchères, et deux, l'UFC, ils peuvent être tentés. On se souvient, ça n'avait pas marché, mais ils avaient essayé de faire ça avec CM Punk, donc qui avait fait ses débuts à l'UFC directement. Et là, je pense qu'on est dans un monde, tu vois, quand tu regardes justement Clarissa Shields, qui elle commence directement au PFL, directement dans le grand bain, au sein d'une grosse organisation. Le cas AJ McKee, qui montre, mine de rien, que ça peut marcher. Aaron Pico, ça n'avait pas marché au Bellator, comme tu l'as dit, mais c'est vrai qu'AJ McKee, ça a marché aussi. Je pense que l'UFC, ils peuvent se dire, et puis même là, mine de rien, avec Cyril, ok. Il était à 3-0, je te rejoins complètement, mais c'était quand même très tôt dans sa carrière, dans le sens où il avait un an de MMA derrière lui, et il était déjà à l'UFC. Là, je pense qu'ils peuvent se dire, avec un mec comme ça, qui est en plus champion olympique, donc ça a une résonance particulière aux États-Unis, en plus en lutte, où vous allez atteindre encore un petit peu plus de foyers que ce que vous pouvez atteindre de base avec le MMA. Je pense qu'il peut avoir cette tentation de se dire, on peut avoir notre premier, tu vois, talent 100% UFC qui a démarré avec nous et qu'on a réussi à franchir tous les paliers jusqu'au titre UFC. Parce que mine de rien, là, je sais pas ce que ça peut donner. Mais tu vois, je pense que Francis et Cyril, ça peut être des superstars mondiales, mais j'ai encore des doutes sur le fait que ce soit des superstars aux États-Unis, en fait. Je pense qu'ils peuvent vraiment faire avancer le sport en Afrique et en Europe, mais après aux États-Unis, qu'ils atteignent, tu vois, le million de pay-per-view, je suis pas encore sûr. Ça dépendra aussi de ce qui se passera lors du combat contre John Jones, tu vois. Mais un mec comme ça, qui est champion olympique, qu'à 21 piges, enfin, ce que, enfin, en soi, enfin, pour les 15 prochaines années, si l'UFC investit sur lui, ça peut être leur prochaine superstar. Et un mec comme ça, qui a aussi tout ce côté, bah, justement, catégorie Riren, physique assez dingue, en plus, le gars qui a l'air vraiment de savoir bien communiquer pour justement faire bouger les lignes, ça peut être hyper intéressant pour eux, parce que je le rappelle, l'UFC, là, aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul champion, et il s'appelle Aljamain Sterling, au niveau
Oh
américain.
putain. Ah oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Et d'autant plus que tu fais bien de le rappeler, j'avais oublié, mais effectivement, la première, il me semble du coup que ça doit être la première, mais c'était CM Punk qui avait été directement signé à l'UFC, t'as raison. Et tout ton raisonnement se tient tellement que, bah, ouais, non, complètement, c'est possible aussi, effectivement. S'il y a bien une personne avec laquelle faire cette grande première, bah, c'est vrai que il remplit toutes les cases, quoi. Il coche toutes les cases, donc effectivement.
Petit
Ouais.
disclaimer là encore, champion, vous allez le dire en commentaire, il y a aussi Rose Namajunas en tant que championne UFC, mais championne féminine bien évidemment. Mais chez les hommes, le seul américain, c'est Aljamain Sterling, et bon.
On sait, we know.
on sait tous. On sait tous, en tout cas, Aljamain Sterling devrait faire une première défense de ceinture le 30 octobre prochain à Abu Dhabi. Donc on verra s'il arrive à conserver sa ceinture ou pas. À suivre, en
Il peut
tout
nous
cas.
surprendre,
Oui,
hein.
il peut nous surprendre, mais en tout cas, c'est ce que Fernand Lopez avait dit aussi dans King Energy, et là aussi, je suis d'accord avec Fernand là-dessus. C'est vrai que là, à mon avis, tu vois, Khabib est parti, Conor McGregor, on s'approche quand même de la fin, et Fernand a dit, l'UFC cherche désespérément son prochain Conor McGregor. Et donc, je pense que c'est un truc en plus de l'UFC, et aussi, j'ajouterais par rapport à ce que Fernand a dit, aujourd'hui, on est dans l'ère WMEIMG, donc ceux qui ont racheté l'UFC pour 4 milliards de dollars. Aujourd'hui, cette organisation, ils sont dans la recherche du profit à tout prix quasiment. Donc, s'ils ont l'occasion d'avoir un mec qui va être un petit peu bankable, ils vont directement sauter dessus. Et là, je pense qu'à mon avis, avec ce mec-là, ils vont se dire, bon, bah, directement, on prend. En plus, ça peut faire une très belle histoire, parce que c'est vrai que le marketing, c'est hyper important. Donc, si tu vois, tu te dis, bon, il fait le LFA pendant, allez, 2-3 combats, s'il peut être à l'UFC pendant toute sa carrière, et en plus, mine de rien, quand on parlait justement des profits, de l'importance du pay-per-view, tout ça, ils peuvent très bien le mettre en ouverture de pay-per-view, Rust, il va être contre un adversaire qui sera pas au niveau, là encore, comme CM Punk quand il avait fait son premier combat, ou même son deuxième, c'était contre le journaliste Mike Jackson, c'est ça?
Ouais.
Contre Mike Jackson, qui avait pas non plus le niveau d'être sur une main card, mais ça vous booste, ça vous fait aller 100 ou 200 000 achats en pay-per-view supplémentaires. Et je pense que pour lui aussi, ça fera, il y aura, à mon avis, un bonus du côté de l'UFC de ce côté-là, s'ils le mettent en main card. Donc
Ouais.
bon, et puis mine de rien, je pense que c'est un pari qui est pas très risqué pour l'UFC non plus, tu vois.
Ouais, non, non, bah non, c'est clair. Enfin, de toute façon, comme il coche absolument toutes les cases, c'est clair que l'UFC n'a pas vraiment grand risque à le mettre. D'autant plus que là, c'est sa médaille d'or qui a vraiment fait exploser complètement sa traction médiatique. Mais c'est pas demain qu'il a envie ou pas de signer à l'UFC. Il lui faut encore 1 an, peut-être 2 ans, etc. Donc là, il a le temps en plus pendant ces 2 années de faire vraiment monter la sauce. Donc là, déjà, il est extrêmement populaire. Alors évidemment, il y a le fait que c'est très récent, la médaille d'or, il y a quelques jours, etc. Mais là, ça peut, on va voir comment ça évolue. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Mais s'il fait les choses bien, sur l'année qui vient ou les 2 prochaines années, s'il commence effectivement, mettons qu'il choisisse le MMA, à s'entraîner à fond à MMA, bah, il peut encore solidifier comment dire, son aura, il peut encore gagner un palier médiatique. Donc, si ça se trouve, là, dans 1 an et demi, 2 ans, ce sera déjà une encore plus grande superstar que ça ne l'est ici et maintenant déjà aux States, quoi. Donc, c'est. Pour l'UFC, c'est une bonne nouvelle ambulante et c'est un, comment dire, une potentielle poule aux œufs d'or à surveiller de près, quoi, effectivement.
Et voilà, mon cher Rust, et j'ajouterais aussi par rapport justement à tous ces talents, on va dire, qui arrivent à l'UFC avec une certaine hype, surtout chez les poids lourds. Je prendrais l'exemple de Greg Hardy, justement. Greg Hardy qui, lors de son combat de l'UFC 249, avait quand même un salaire, donc pour sa victoire face à Yoram De Castro, de 180 000 dollars. Donc je veux dire que pour lui aussi, financièrement, même si la WWE, je pense qu'ils peuvent lui apporter aussi des sommes qui sont assez
Oui.
intéressantes. Signer à l'UFC, ça peut être intéressant. Et on a vu ce qui s'était passé avec Brock Lesnar, où des passerelles sont possibles. Et un mec comme ça, je pense que, sans, je vais pas dire sans trop de mal, mais ça serait assez simple pour lui de faire la passerelle vers le catch. On se souvient aussi de Cain Velasquez, après sa défaite contre Francis Ngannou, qui lui aussi avait signé à la WWE. C'était une grosse grosse star en devenir. Ils avaient même fait la revanche. C'était Cain Velasquez contre Brock Lesnar en catch. Et je crois qu'ils ont mis fin à son contrat parce que c'était, parce qu'il y a toute une partie, en fait, scénario, dans le catch, et Et en gros, ce qui se passait, c'est que Ken Velasquez, il postait les entraînements qu'il faisait avec les mecs sur ses réseaux sociaux. Et donc, du coup, les gars, ils vont dire, bon, bah, au bout d'un moment, c'est plus possible. Je crois que c'était ça, c'est quelque chose comme ça, où soit il postait en story, enfin bref, mais du coup, il spoilait tout ce qui allait se passer lors des événements. Donc,
Mais putain, mais c'est pas possible.
Et pourtant, si, mon cher, ça n'a aucun sens, mais pourtant, si, malheureusement. Donc, je ne
Et
sais pas
pourtant, elle
ce qu'il y
tourne.
a. En tout cas, pour l'instant, Ken Velasquez ne fait plus de catch et plus de MMA non plus, même s'il n'a pas annoncé officiellement sa retraite. On a fait le tour, mon cher Rust?
Je crois.
Eh bah formidable. Bah on vous dit à la prochaine. En tout cas, on espère que cette petite introduction sur Gable vous a intéressé. J'espère moi que ça avancera sérieusement pour lui, dans le sens où là on a vu énormément de mecs qui faisaient des petits appels du pied à l'UFC ou à d'autres organisations et que ça ne se concrétisait pas. Là, on a un mec qui a 21 ans, si tout se passe bien sur le papier et qui signe dans le bon gym, ça peut être monstrueux pour lui, mais
Ouais.
vraiment monstrueux. On peut avoir quelque chose qui Bah voilà, voilà vraiment la naissance d'un véritable phénomène et qui, en plus, au regard des talents qu'il y a actuellement à l'UFC dans cette catégorie heavyweight, bah il pourrait leur poser problème. Donc franchement, moi je signe vraiment à fond pour lui.
Non, mais pire que ça, parce qu'en fait, je pense que pour qu'on se rende bien compte, je pense qu'il faut vraiment qu'on mette le stress, qu'il faut vraiment qu'on mette particulièrement en lumière. Je sais qu'on l'a déjà mis 10 000 fois là pendant ce podcast, mais 21 ans. Donc on dit que Cyril Gane, c'est un prodige du MMA. On dit qu'il est encore jeune dans sa carrière chez les poids lourds. Il me semble qu'il a 31 ans. C'est jeune pour les poids lourds. Il a encore de très belles années devant lui, Cyril, etc. Il a 10 ans de moins que Cyril. C'est insensé. Pour un poids lourd, c'est insensé. Donc après, pareil, on va pas se lancer dans des trucs parce que sinon on va repartir pour des heures. Mais tu vois, c'est un peu comme Tyson, c'est-à-dire que il peut aussi très bien se passer ce qui se passe dans beaucoup de cas, c'est que il va avoir ses meilleures années là pendant 2, 3, 4 ans, et en fait après, pour des raisons qui sont soit extra-sportives, soit sportives, parce qu'il va en avoir un petit peu marre, ou qu'il y aura une usure ou quoi que ce soit. Et si ça se trouve, en fait, genre après 26, 27 ans, ça va partir complètement à volo, tu vois, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est que là, pour au moins les 3, 4, 5 années qui viennent, je pense, parce qu'après, c'est vraiment l'inconnu, ça va être, il y a des risques que ce soit effectivement monstrueux. C'est historique d'avoir cet âge-là. En MMA, s'il se ramène à l'UFC à cet âge-là et qu'il commence à dégommer, ça va être historique aussi. Donc, ouais, non, ça, l'histoire est en marche, quoi.
Non, prometteur, et puis même bah, quand on pense à son run aux Jeux Olympiques, c'était assez monstrueux parce qu'en finale, il a battu le mec qui était 3 fois champion du monde en titre, et en demi-finale, bah, il avait quand même battu, ou en demi-finale, ou un petit peu plus tôt justement dans le tournoi poids lourd, il avait battu le médaillé d'or olympique des JO 2016. Donc en plus, on a un petit tombeur de géant entre nos mains, donc rendez-vous compte là du potentiel assez stratosphérique. Bref. Breaking news. Gable Stevenson, on en parlait avec Big Rusty, et bah ça y est, ça vient de tomber. Il a échangé avec John Jones, donc il a commenté un post Instagram de John Jones, et John Jones a répondu, si tu es sérieux à propos du MMA, j'espère que tu vas décider de t'entraîner ici à Albuquerque. Donc John Jones fait bien évidemment référence à son club, à son gym de Jackson Wink MMA, et Gable Stevenson a répondu, envoie-moi un message, je veux venir et bah, m'entraîner avec toi, donc justement vraisemblablement en lutte, puisqu'elle a dit un roll. Donc voilà, donc selon toute vraisemblance, le phénomène est sérieux quant à ses attentions MMA. On est ravis, en plus avec John Jones, qui n'est autre que l'un des plus grands de tous les temps dans la discipline. C'est formidable, c'est fantastique. Mon cher Rust, on va se quitter là-dessus. Big shout-out, vous le savez, à My Sweet Pea. My Sweet Pea! Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, et sponsor de la sueur, vous le savez. Tac, oula, tac, ici. Et bah, puis voilà, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité, bien évidemment. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. On est également sur toutes les plateformes de podcast audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, et j'en passe. À la prochaine!
À la prochaine.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur
sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez la sphère et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.